derniers événements qui ont eu lieu en Syrie. Alors, les derniers événements, bien évidemment, dans la longue durée de la guerre qui est menée par l'impérialisme du Pentagone pour détruire la Syrie comme l'Irak a été détruit. Donc là, on est dans cette longue durée. Bah, les derniers événements, c'est effectivement ce que l'on a pu voir sur tous les médias avec la survalorisation photographique et cinématographique d'un pseudo-bombardement chimique qui aurait été orchestré par le régime. Alors, on est au cœur du spectacle du mensonge marchand. Alors, on a connu, hein, il faut rappeler lors de l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein, la grande mystification des couveuses, où on nous avait expliqué avec force photo, force mise en condition et même cinématographie avec la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis déguisée en infirmière mythologique, expliquant que les troupes de Saddam Hussein avaient jeté les bébés d'une maternité de Koweït City au sol en les ayant piétinés et en ayant détruit tout le matériel. Il faut toujours, dans le cadre des restructurations du capital que le spectacle organise, des horreurs, des écœurements et toute une série de mécaniques traumatiques, de compulsions et de compassions pour effectivement structurer les angoisses dans les enrégimentements militaires et politiques. Donc le mensonge est toujours ciblé sur ce territoire-là. Donc là, on nous refait le coup au moment où les troupes de Bachar el-Assad sont dans une dynamique de reconquête et donc plus ou moins dans une dynamique de victoire, le coup d'un bombardement chimique radicalement inhumain. On constate dans un premier temps que ça n'a évidemment aucun sens parce que au niveau mondial, dans les perceptions médiatiques et émotionnelles, il va de soi que même le pouvoir le plus débile sait que s'il exerçait à l'égard de sa population, même derrière une ligne de front où il y a des combattants ennemis, ce style d'agissement, il aurait immédiatement la condamnation de la communauté internationale, de l'aliénation mondiale. Donc, Bachar el-Assad, dans la phase actuelle de reconquête, avait précisément intérêt à ce que ce genre de choses n'ait pas lieu, alors que précisément, ce que l'on appelle l'opposition démocratique du MI6 et de la CIA, alliés bien évidemment à la structure Daesh, avaient eux tout intérêt à commettre ou à organiser ce genre de spectacle. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain? On n'en sait rien et à la limite ça n'a pas d'intérêt parce que ce qui compte c'est la compréhension dialectique des enjeux géostratégiques. Que ce soit une bombe de l'aviation gouvernementale qui soit tombée sur un dépôt d'artisanat toxique tel que les rebelles en ont fait à plusieurs reprises, c'est possible. Qu'il n'y ait rien eu du tout, c'est aussi possible, puisqu'on sait que les fameux casques blancs ont la capacité d'organiser régulièrement des grands spectacles qui sont reproduits sur toutes les chaînes internationales. Donc, peu importe qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu, on sait que dans la logique du terrain, ça ne peut pas venir du régime de Bachar el-Assad, qui lui a au contraire, dans ce genre de cas, uniquement des effets négatifs. Donc, dans la phase de reconquête actuelle, il n'avait aucun intérêt à mettre en marche ce genre de choses. Donc, on voit d'où ça vient et on voit aussi pourquoi ça vient là, à ce moment-là. Je rappelle que simultanément, les médias, en tant que dictature démocratique du spectacle de la marchandise, ont des cibles prioritaires et ont des oublis prioritaires. Les cibles prioritaires sont toujours des simulations, et on voit là qu'on a une simulation qui est bien organisée, qui est reproduite à l'infini, de tous les enfermements médiatiques mondiaux, mais dans le même temps, alors même que, les Anglais, les Américains, les Français, ont ravitaillé de manière intensive les Saoudiens, la population yéménite, elle, subit de manière massive des massacres intensifs. Là, il n'y a pas de photo, là, il n'y a pas d'émission radio, il n'y a pas d'émission télé, parce que dans le cadre de la restructuration mondiale de la marchandise impériale, il y a les bonnes victimes et il y a les mauvaises victimes. Donc personne n'entend parler du Yémen, où aujourd'hui une guerre totale est menée par l'armée saoudienne, une armée saoudienne qui se heurte à une résistance extrêmement forte des rebelles chiites et qui est donc conduite, elle, contrairement à Bachar el-Assad dans la phase actuelle où lui, il est dans une phase de conquête et de stabilisation, les Saoudiens, eux, sont dans une phase de panique parce qu'ils n'arrivent pas à réduire cette rébellion chiite. Donc, on a au Yémen des massacres intensifs dont personne ne parle et on a en Syrie un mensonge médiatique dont tout le monde parle. Donc, il faut comprendre pour quelles raisons on a cela et pour quelles raisons, à partir de cela, on voit s'opérer un retournement de l'administration Trump. Trump, il y a encore quelques jours, laissait entendre, par la voix de sa représentante au Conseil de l'ONU, que l'heure n'était plus à remettre en cause Bachar el-Assad en tant que tel, mais que l'heure était à, quelque part, un apaisement stratégique de la région. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Alors, ce revirement, il ne s'explique pas par la psychologie des individus, il ne s'explique pas par les chaos bureaucratiques de l'administration, il s'explique par la dialectique concrète de la crise du capital en la phase actuelle. Je rappelle la formule clé de Marx dans le livre 1 du Capital, quand il parle de la marchandise et du fétichisme de la marchandise et de son secret, il nous dit à chaque fois il faut décrypter le hiéroglyphe du mouvement historique. Alors, le hiéroglyphe du mouvement historique de la valeur d'échange aliénatoire, mais le développement historique du hiéroglyphe de toutes les configurations politiques de la mystification impérialiste en mouvement. Au cours des derniers temps, l'administration Trump a subi des pressions intenses. Et il faut donc en revenir à cette dichotomie radicale qui est posée à la fois par Marx et par Debord dans des formes différentes, sur la contradiction qui existe entre l'état secret et l'état visible. L'état secret, c'est l'état des grandes organisations qui, dans l'immanence de la marchandise, tiennent en quelque sorte le point le plus extrême des nécessités stratégiques de la crise du taux de profit et de la saturation des marchés. C'est là où se retrouve, au carrefour du Pentagone, de la Maison-Blanche, de la CIA et de toute une série de structures souterraines, le vivier actif de la planification et de la programmation du mouvement impersonnel de la marchandise. Et cet état secret, il est de manière radicale, non pas parce qu'on a là une école despotique par essence, mais parce qu'on a là le concentré de la crise du capital, une structuration géostratégique qui opte pour la dictature unipolaire de la marchandise. La dictature unipolaire de la marchandise qui a produit cette vision de la guerre sans fin et du chaos absolu dans une forme unipolaire qui fait que l'axe américano-israélien doit obtenir une dominance absolue. Et on a de l'autre côté des États, des structures politiques qui ne sont pas l'État secret, mais qui sont l'État visible et qui aménagent quelque part des visions, des agencements pour une vision qui ferait aboutir à une dictature multipolaire. Et cette dictature multipolaire, elle était quelque part le projet trumpien initial, puisque Trump, dans sa première figuration, a justement été dénoncé par toutes les organisations de l'État secret dans sa volonté d'opérer des rapprochements, par exemple, avec Poutine. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que depuis que Trump est en mouvement, il est diabolisé et on en a fait quelque part un monstre à travers toutes les orchestrations médiatiques. Et ce matin, tous ceux qui, depuis des mois et des mois, nous font le tambour de la diabolisation et de l'horreur absolue, lui ont trouvé un côté positif. Ce matin, que vous soyez sur France Info, sur Europe 1, sur RTL, sur RMC, on saluait enfin les frappes, et pour la première fois, on considérait qu'il y avait chez Trump quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qui s'articule là au plus profond ? Il s'articule là une contradiction entre l'état secret et l'état visible. Entre l'état secret qui veut pousser au maximum la dictature unipolaire, chaos indistinct de la marchandise, qui a abouti justement à l'éclatement du Moyen-Orient. L'éclatement du Moyen-Orient, destruction délibérée de l'Irak, destruction délibérée et voulue de la Syrie. Donc là, on a le spectacle du mensonge des armes chimiques. On l'avait eu, je pense que tout le monde se rappelle de la petite fiole de Colin Powell. Préalablement à la petite fiole de Colin Powell, on avait eu les inspections à répétition de l'Irak sous embargo. On nous expliquait toujours qu'il y avait des tonnes de matériel dangereux qui circulait ici et là et que Saddam Hussein était effectivement un danger pour le monde en son entièreté. Donc l'arme chimique, c'est un dada constamment réitéré dans le bobard et dans le bourrage de crâne. Il revient systématiquement. Donc, on a usé là de ce bobard pour organiser précisément les frappes, et on organise les frappes à partir du Pentagone et de la Maison Blanche, à partir d'un Donald Trump qui, il y a encore quelques temps très bref, très court, nous disait qu'il était pour une situation totalement décontractée par rapport à la sphère moyenne-orientale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé des restructurations dans l'appareillage approché de Donald Trump. Alors, ce n'est pas lié comme ça à une recomposition du hasard. C'est bien évidemment la crise du capital en mouvement qui rend absolument nécessaire des contractions, des unifications et des homogénéisations par rapport à la situation présente. On est donc passé, dans le cadre des contradictions qui opposent l'état secret et l'état visible, à une surdétermination de ceux qui veulent une dictature unipolaire de l'impérialisme américain sur ceux qui ne voulaient qu'une dictature multipolaire. On est passé, dans la phase actuelle, d'une équipe qui était ouverte à des négociations et avec des rencontres avec Poutine sur l'ensemble de la sphère euro-asiatique qui débouche donc sur le Proche-Orient, à une vision qui aujourd'hui veut effectivement redéfinir les choses dans une position beaucoup plus hégémonique pour l'Amérique. Alors, beaucoup plus hégémonique pour l'Amérique, on a vu au cours des derniers temps toute une série de gens partir et une série de gens arriver à des postes beaucoup plus importants. Trump a dû subir un certain nombre de campagnes qui ont vu progressivement Michael Flynn être écarté des structures de conseil en matière de sécurité, et dans le même temps, on a vu Steve Bannon être lui-même écarté. Alors, Michael Flynn et Steve Bannon, ce sont des gens qui ont eu des positions fluctuantes dans le temps, ce sont des gens qui ont eu parfois des positions militaristes, qui ont eu parfois des positions anti-poutiniennes ou anti-Bachar el-Assad, mais qui, dans les derniers temps, s'étaient cristallisés dans une optique que la CIA et le Pentagone considéraient comme pro-russes. Pro-russe au sens où elle représentait la vision américaine d'une dictature multipolaire de la marchandise qui concédait à la Russie un certain jeu autonome. Dans le même temps, le gendre de Trump, qui s'appelle Kushner, je crois que c'est Jared le prénom, est arrivé et directement comme bras droit à la sécurité pour tout ce qui est du registre de la politique internationale. Donc le Kouchner en question est un juif orthodoxe qui est directement lié à la colonie de Beit El en Cisjordanie près de Ramallah et qui n'a jamais fait mystère de sa position radicalement anti-palestinienne et donc totalement hégémonique pour ce qui a trait à la Cisjordanie. Et donc, il en résulte que, bien évidemment, tout ce qui a découlé des accords d'Oslo est, pour ces gens-là, totalement caduque. Et c'est d'ailleurs pour ça que les dernières déclarations de Trump ont été des déclarations qui rejoignaient sans difficulté la position de Netanyahou, à savoir qu'il y aura peut-être un jour la paix, mais que de toute manière, cette paix sera homogénéisée dans une seule unité étatique qui sera celle d'Israël. Donc on a assisté au cours des derniers temps à un conflit entre ce que Trump avait annoncé dans le cadre d'une volonté d'assumer une dictature multipolaire de la marchandise et ce que l'État secret qui était représenté par le clan clintonien et tous ceux qui ont été battus aux dernières élections, eux, ont toujours envisagé comme seule solution possible. Donc on pourrait dire que dans la phase actuelle, on a un conflit très fort entre l'État secret et l'État visible, et qu'au cours des dernières semaines, l'État secret a pris le pas sur l'État visible, au sens où la problématique clintonienne est venue manger la problématique Trump. Donc certes, Trump est toujours à la Maison-Blanche, mais les tirs de missiles Tomahawk qui viennent d'avoir lieu sur la Syrie montrent que désormais, il est sous contrôle de l'État secret. Alors la question qui est posée, c'est est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est définitif? On va le voir d'une manière extrêmement simple, par le fait qu'on va constater qu'il a ou donné des gages à l'État secret et il va essayer plus ou moins de continuer la vision multipolaire qui était la sienne, ou au contraire, on va voir que c'est une capitulation définitive si, à partir de ce moment-là, fort symboliquement, on a quelque chose qui ne cesse de confirmer cette nouvelle optique. Ce qui est important, au-delà de la réalité événementielle, phénoménale, à savoir le mensonge de la guerre chimique qu'on nous avait déjà fait pour l'Irak et qu'on nous fait pour la Syrie. La réalité géostratégique de la guerre sans fin. La guerre sans fin en tant que résultat de la crise intensifiée du capital, de la baisse généralisée du taux de profit et de la saturation accélérée du marché mondial. Il y a bien évidemment derrière tout ça, et c'est là où on en revient au fameux hiéroglyphe de Marx, la nécessité de comprendre que toute la temporalité géostratégique, toute la temporalité politique, en termes d'apparence des choses, elle renvoie à la temporalité de l'essence des contradictions du capital dans le cheminement valorisation-dévalorisation. Donc, on est dans une étape extrêmement importante qui marque justement l'accélération crisique du mode de production capitaliste mondial. Et donc, ça n'est pas un petit détail si aujourd'hui Trump est rendu à ce positionnement et à la nécessité de, au-delà des positions de dictature multipolaire qu'il a sans cesse affirmées, finalement capituler et opter pour la vision stratégique de ceux qui, dans l'ombre du Pentagone et de la CIA, ont toujours été pour la dictature unipolaire de la marchandise et le chaos indistinctif généralisé de la marchandise. C'est là la position du général McMaster qui a poussé Flynn et qui a poussé Bannon à sortir des structures gouvernementales qui appuyaient directement Trump. Donc là, on a, au-delà des faits, une parfaite illustration de ce que Marx et Debord ont positionné sur le secret du fétichisme de la marchandise et sur le secret généralisé du temps contemporain en tant qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un état secret derrière l'état visible et que c'est un conflit permanent. Donc la phase actuelle, c'est le moment où l'état secret qui veut le chaos indistinctif prend le pas sur ce qui représente la dictature multipolaire vers un agencement diplomatique beaucoup plus calme et serein. Mais il faut bien comprendre que ce qui est en jeu, et on parlait tout à l'heure du traité de Rapallo, ce qui est en jeu, ce n'est pas le conflit entre les États-Unis et la Russie, ce qui est en jeu, c'est le conflit impossible, le conflit larvé, entre les États-Unis et le haut potentiel technologique européen. On en revient toujours à la même histoire. La grande peur de l'État secret, la grande peur de l'État secret, c'est que la haute technologie européenne s'autonomise et aille investir dans ce qui est aujourd'hui l'espace euro-asiatique poutinien, vétuste et tributaire de plusieurs décennies de capitalisme d'État soviétique archaïsant et obsolète. Donc aujourd'hui, pour empêcher une autonomisation technologique de l'Allemagne, de la France, qui pourrait enfin investir en Russie, il faut constamment ce chaos indistinctif, cette guerre de tension généralisée qui a pour objectif, à travers la crise ukrainienne, à travers la crise du Moyen-Orient, d'empêcher l'autonomisation dont nous venons de parler. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où l'État secret sur le continent américain coiffe et tente de totalement contrôler Trump, qui était précisément, dans le cadre de son opposition à Clinton, l'adversaire déclaré de cet État secret, on a des phénomènes similaires. Je vous rappelle ce qu'on a dit ensemble, ce que nous avons analysé le cas Fillon. On ne tue pas Fillon physiquement, comme on a pu tuer Boulin, mais on tue symboliquement Fillon depuis des semaines et des semaines, non pas parce qu'il est plus pourri que les autres. Ils ont tous un mode de vie, un mode d'existence et un mode de relation à l'argent qui est le même. Mais parmi tous ces gens qui ont le même mode de relation à l'argent, il n'y en a qu'un qui est lynché systématiquement jour après jour, parce que, et on le voit aujourd'hui, quand on écoute l'intégralité de la classe politique, à part Marine Le Pen, qui, vis-à-vis du problème poutinien et vis-à-vis du problème syrien, a un certain nombre de distanciations critiques et qui a peu de chances d'être élu, le seul qui avait une chance réelle d'être élu, mais qui, contre justement les obligations idéologiques de l'État secret, rappelait qu'il y avait quand même une nécessité de trouver un agencement éventuel avec Bachar el-Assad et avec Poutine, c'était Fillon. Et Fillon, c'est de quoi il parle, puisqu'il a été au cœur des appareillages qui ont enclenché la guerre de Libye à l'époque Sarkozy. Il a compris, même s'il ne peut pas dire, même s'il ne peut pas tout comprendre et tout saisir, qu'il y avait quelque chose. Alors, certes, Fillon est bien évidemment un mondialiste, mais un mondialiste multipolaire de la marchandise, alors que Macron est un mondialiste unipolaire de la marchandise. Donc le grand conflit contemporain, dans le cadre effectivement de la prise du pouvoir, c'est le conflit entre les mondialistes unipolaires et les mondialistes multipolaires. Et alors que les mondialistes unipolaires veulent une hégémonie totale qui écarte violemment la Russie, les autres, dans le cadre justement de cette volonté politique multipolaire, veulent au contraire des partenariats. Et on est là dans toute une dynamique contradictoire, dans toute une dynamique conflictuelle. Mais j'insiste sur le fait que tout ça doit être compris dans le champ d'une immanence de la marchandise. Il n'y a pas eu une manœuvre obscure dans les appareils de la Maison-Blanche, avec des gens qui ont comploté obscurément et policièrement dans la noirceur de locaux opaques pour, autour du général McFarlane, décider d'écarter Flynn, décider d'écarter Bannon, et puis de dire, bon, bah, finalement, on va manipuler avec Trump, et c'est Kouchner qui va prendre progressivement la mise. Alors, toutes ces dérivations, ces changements de personnel ont lieu, mais ils sont d'abord le produit de l'immanence de la marchandise et de sa crise. La marchandise est un complot universel contre l'humanité en permanence et depuis des siècles. Ce ne sont pas les complots qui font l'histoire, mais c'est l'histoire qui fait les complots. Ce à quoi on assiste aujourd'hui aux États-Unis, dans toutes les politiques de manœuvre et de réaménagement, c'est effectivement l'immanence d'une crise généralisée, qui nécessite des développements géostratégiques. Alors, où Trump est-il là-dedans? C'est l'avenir qui va nous le dire. Ce que nous savons, c'est que à partir du moment où un chef d'État, quel qu'il soit, dans le cadre du développement de la marchandise, ne correspond plus aux nécessités déterministes de l'histoire, il est liquidé. Et de Philippe le Bel à Wall Street, le développement de la marchandise s'est développé et dans une modernité de plus en plus effrayante, il a réalisé cette logique. Mais on peut remonter à l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, on peut remonter à l'assassinat d'Henri III par Jacques Clément. On sait que quand il y a une forte pression géostratégique dans le développement des nécessités les plus fortes de la valeur d'échange en mouvement, il se passe quelque chose. Henri IV, c'était au moment où effectivement il y avait un conflit très fort entre la maison d'Espagne et Henri IV, pour s'opposer à la mainmise espagnole sur toute une série de territoires. Il y avait autour d'Henri IV toute une conurbation et toute une série de méandres qui voulaient abattre Henri IV, le clan Épernon, le clan Concini, mais ce n'est pas Épernon et Concini dans un complot qui ont tué Henri IV. C'est le devenir de l'histoire qui fait qu'à un moment donné, l'histoire, dans un saut qualitatif, a rendu nécessaire, dans la géostratégie de développement historique, le complot Épernon-Concini. C'est pareil pour Henri III. Quand Henri III a été assassiné par Jacques Clément, il y avait effectivement toute une série de fractions politiques à l'époque qui n'avaient pas pardonné l'assassinat du duc de Guise. Et donc Henri III n'a pas été assassiné comme ça par Jacques Clément, mais c'est parce qu'il avait franchi une limite. Henri IV avait franchi une limite. Kennedy, de la même manière, un jour, a franchi une limite. Il y avait un conflit très fort entre Ben Gurion, Lévi Eshkol, Johnson et Kennedy pour le redécoupage géostratégique du Moyen-Orient et la compréhension des nécessités impérialistes de l'arme nucléaire israélienne. Kennedy, à un moment donné, a franchi la ligne rouge et il a été liquidé. Est-ce que Trump, un jour, franchira la ligne rouge? On n'en sait rien. Peut-être que Trump est totalement aujourd'hui assujetti à la dictature unipolaire de l'État secret. Peut-être que demain, peut-être après-demain, en tant que représentant d'une certaine autonomie des agents de la dictature multipolaire de la marchandise en crise, il va tenter de s'affranchir de ce réagencement de l'administration américaine. On ne peut pas le savoir pour le moment. Il va falloir attendre un certain temps avec une patience méthodologique pour comprendre les véritables enjeux. Toujours est-il que là, cette frappe sur l'armée syrienne, elle marque un moment majeur dans l'évolution de la crise du capital au niveau mondial, dans la crise du spectacle de l'imposture qui le recouvre, et il va falloir être très attentif pour saisir ce qui va faire justement le devenir des temps qui viennent. Parce qu'au terme de l'élection présidentielle française et au terme de ce temps où l'administration Trump bouge, il va se passer plein de choses au niveau mondial, tant du point de vue de la géostratégie générale des intérêts du capital que du point de vue de l'émergence des luttes de classe qui vont progressivement surgir. Nous aurons un nouveau président d'ici quelques mois et nous aurons très très rapidement... Que le vainqueur soit Macron, Fillon ou Le Pen, une désagrégation sociale, commerciale et industrielle qui sera profonde. Il y aura donc très très rapidement dans les temps qui viennent une intensification de la lutte de classe et nous verrons surgir des grèves sauvages que les syndicats et les gauchistes auront beaucoup de mal à contenir. Dans le même temps, l'administration américaine va construire des dispositifs nouveaux qu'il va falloir analyser. Nous aurons une crise de l'euro, nous aurons une crise de l'Europe. Tout ça va s'agencer. Et tout ça va s'agencer de telle sorte que, enfin, le fameux hiéroglyphe va devenir visible. Parce qu'au fur et à mesure que la matérialité de la conscience fausse va s'auto-invalider, la matérialité de la conscience vraie va permettre de percevoir et d'apercevoir les véritables mouvements de l'alternative du temps contemporain. Et pour conclure, il faut extrêmement creuser, il faut extrêmement se documenter, à la fois sur les factualités contemporaines, mais sur la nécessité méthodologique du concept. Je voyais régulièrement au cours des dernières semaines toute une série de commentateurs géostratégiques nous dire avec moult papiers que l'administration américaine reconnaissait enfin le système Bachar el-Assad et que nous étions définitivement sortis du système clintonien. On voit que quand on creuse bien l'événementiel, mais qu'on n'est pas passé par la méthodologie radicale de Hegel, de Marx ou de Debord, malgré tout le savoir documentaire que l'on a, on se plante et on se plante toujours. Parce que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Ce qui compte, ce ne sont pas les faits. Ce qui compte, c'est la dialectique contradictoire du capital qui est derrière les faits et qui permet de comprendre la destination des faits. Et donc, à partir de là, beaucoup de choses vont avoir lieu, mais ce beaucoup de choses qui va avoir lieu doit nous engager à un effort de radicalité supérieure. Il faut rappeler à nos auditeurs que si effectivement Bachar el-Assad, c'est un petit État local, et que la clique pentagonienne, c'est le gigantesque monstre de l'État américain, ce qui fait que le monstre américain produit énormément d'horreurs, alors que le système de Bachar el-Assad en produit bien moindre, ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la puissance réelle des capitalismes en question et la puissance des appareillages policiers et militaires de répression. Autrement dit, la critique radicale, elle dénonce bien évidemment les gigantesques manipulations de l'ordre américain de la marchandise tentaculaire, mais pas pour défendre les petits capitalismes locaux qui seraient plus intéressants, moins nocifs ou plus humains. Certes, nous faisons une critique radicale du point de vue de la méthodologie subversive de l'empire de la marchandise américaine, mais non pas pour défendre les capitalismes locaux qui s'y opposent. La grande question qui va surgir dans les années qui viennent, ça sera celle, effectivement, de la véritable révolution sociale contre tous les États, contre l'argent, contre l'économie et contre la politique. Donc, analyse rigoureuse des enjeux géostratégiques, mais non pas pour s'y fondre, s'y diluer, s'y absorber. Analyse géostratégique pour montrer que tout État est pourriture, que tout discours d'État et que toute vérité officielle est une imposture du spectacle de la marchandise, mais qu'on ne choisit pas les petits spectacles étatiques contre les grands spectacles étatiques, mais parce que l'on veut abolir tous les spectacles étatiques de l'aliénation, que l'on est donc contre tous les rackets politiques et contre la misère marchande en tant que telle.